Bonsoir, troisième pour cette tribune de la presse, à savoir, province de Kiev-vous, dépôt des prix mercredi dernier d'une pétition réclamant la démission du gouverneur Louis-Léonce Mouguerois, accusé de mauvaise gestion de la province. Ensuite, la visite du chef de l'État turc Abdul Gül en République démocratique du Congo. Et enfin, Parlement, ouverture lundi dernier de la session ordinaire du mois de mars. Trois journalistes participent à ces débats. Il s'agit de Benoît Cambéré, il est éditeur du journal Écho des Grands Lacs, c'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes de la RDC. Giscard Koustema, il est rédacteur en chef pour la télévision digitale Congo-Kinshasa, c'est une télévision qui est émise depuis Kinshasa. Et Mathieu Poukougui, il est éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, c'est un journal qui paraît à Matadi, au Bas-Congo. Dépôt d'une pétition contre le gouverneur Louis-Léonce Mouguerois, visite du chef de l'État turc, ainsi que ouverture de la session ordinaire du Parlement, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Nous allons voir comment la presse chinoise a traité ces différents sujets dans cette revue de presse qui nous présente Samuel Kachaka.
Bonsoir. Trois sujets sélectionnés pour cette revue de la presse. D'abord, la pétition réclamant la démission du gouverneur du Sud-Kivu. Selon la référence plus, il est reproché au gouverneur Louis-Léonce Mouguerois Chirimwami une gestion calamiteuse. La tempête des tropiques de son côté estime que le gouverneur du Sud-Kivu est sur une chaise éjectable. Ce journal espère que son appartenance à la famille politique présidentielle et même au PPRD ne fera pas ombrage à toute démarche visant à le sanctionner. Autre sujet abordé cette semaine, c'est la visite en RDC du président turc. Pour le journal Ouro, la RDC et la Turquie sont partis pour un partenariat gagnant-gagnant car les deux États s'engagent à des consultations régulières pour promouvoir la coopération entre leurs pays. Le potentiel pour sa part note que Joseph Kabila et Abdullah Gül décident de développer les relations bilatérales dans tous les domaines. Terminons cette revue de la presse avec la rentrée parlementaire cette semaine de la session de mars. Pour le potentiel, devant les députés, Évariste Beauchamp a évoqué la très controversée question de la révision constitutionnelle qui, selon lui, n'est pas un tabou, mais un exercice légal et démocratique, indiquant également qu'Évariste Beauchamp plaide pour une révision constitutionnelle. La tempête des tropiques met en garde contre tout dérapage. D'après ce journal, les observateurs avertissent le pouvoir de ne pas profiter de cette opportunité pour opérer une révision constitutionnelle qui n'est pas permise sur certaines matières comme la durée du mandat du président de la République.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes de la RDC. Et comment jugez-vous le travail de la presse chinoise de cette semaine?
Bon, on a fait un choix. Trois sujets. Bon, je crois que ce sont trois sujets qui se défendent, bien qu'on aurait aussi parlé d'autres choses, mais je crois que les trois sujets qui ont été retenus aujourd'hui, ça fait l'essentiel de l'actualité cette semaine traité par la presse chinoise.
Giscard Koustema, vous êtes rédacteur en chef pour la télévision digitale Congo Kinshasa, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa, et votre appréciation par rapport au travail de la presse de cette semaine?
Écoutez, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, je crois qu'il s'agit là de sujets qui ont alimenté les colonnes de nos tabloïdes toute cette semaine, et ce sont donc ce sujet au cours duquel le débat continue à être alimenté, et je crois que la sélection qui est là, elle est rationnelle.
Mathieu Poukougui, vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Embouchure, c'est un journal qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Et quel est l'effet, l'événement qui a dominé l'actualité dans la province du Bas-Congo cette semaine?
Oui, cette semaine, l'information qui a dominé au sein de la province, c'est notamment le déploiement des agents recenseurs de la régie provinciale d'encadrement et de recouvrement des recettes de l'État dans la province du Bas-Congo pour pouvoir procéder à la taxation sur les impôts sur l'impôt foncier. Donc voilà un peu, et puis l'organisation d'une réunion de concertation entre les forces vives de la province autour de la fête du 50e de la République démocratique du Congo.
Merci, nous passons à notre premier thème ce soir. Province du Sud-Kivu dépose depuis mercredi dernier d'une pétition réclamant la démission du gouverneur Louis-Léonce Mbéroi, accusé de mauvaise gestion de la province. Une pétition réclamant la démission du gouverneur Louis-Léonce Mbéroi Kirumwami a été déposée auprès du secrétaire administratif du dit gouvernorat mercredi en fin d'après-midi. Une conférence de presse a suivi le dépôt de cette pétition. Selon le porte-parole des pétitionnaires, cette requête comporte plus de 80 000 signatures et reproche au gouverneur Louis-Léonce Mbéroi Kirumwami une gestion calamiteuse de la province. Les initiateurs de la pétition précisent que l'opération se poursuit à travers la province. Le dépôt de cette pétition intervient deux jours après le débat à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu sur le rapport de la commission parlementaire qui a enquêté sur la gestion de la province. Plus de détails avec Belinda Bosuma Bokungu.
La première pétition contre le gouverneur Louis-Léonce Kirumwami Mbéroi avait commencé à circuler dans la ville de Bukavu au début du mois de janvier dernier. Des personnes appartenant au groupe dénommé FCA, Forum des citoyens en action, s'est chargée de la récolte des signatures qui demandaient le départ de l'actuel gouverneur et son remplacement par une autre personne. Les pétitionnaires de cette époque déclaraient avoir collecté 68 000 signatures. Leur principal reproche à l'encontre du gouvernement provincial était l'insécurité qui continue de faire des victimes au Sud-Kivu et qui, selon eux, n'est pas traité par l'exécutif provincial avec la détermination nécessaire. Le non-paiement des enseignants faisait aussi partie des griefs formulés ainsi que la dilapidation des fonds publics. Au début du mois de février, ces pétitionnaires se rétractent et décident de retirer leur pétition après que des sages de la ville leur en ont fait la demande. Comme justification à ce retrait, le forum indique qu'il souhaite accorder du temps au gouvernement provincial pour redresser la barre. Immédiatement après, un autre groupe récupère l'affaire et initie une autre pétition qui reprend les mêmes griefs et qui demande au gouverneur de démissionner. Ces nouveaux pétitionnaires disent aujourd'hui avoir récolté 80 000 signatures. Le gouvernement provincial conteste et le nombre de signatures est le fond des reproches adressés. Néanmoins, cette pétition tombe mal pour l'exécutif puisqu'elle suit des deux jours la présentation d'un rapport parlementaire sur la gestion de la province. Ce rapport demande la démission de plusieurs ministres et fonctionnaires provinciaux. Il est discuté depuis hier devant l'organe délibérant du Sud-Kivu.
Benoît Kamere, votre réaction par rapport à cette situation qui prévaut dans la province du Sud-Kivu?
Bon, d'abord, le Sud-Kivu a toujours été considéré comme un bastion de la contestation, un bastion fondeur d'ailleurs. Tout le monde se rappelle, par exemple, pour ne pas aller très loin dans le temps, qu'à la Conférence nationale souveraine, la société civile du Sud-Kivu a été une société civile à l'avant-garde. Tout le monde se rappelle des sittings qui étaient faits devant le Palais du Peuple pour que la conférence nationale démarre, n'est-ce pas? Tout le monde se rappelle du professeur Gervais Tiraliroy, tout le monde se rappelle de Pierre Lungi à l'époque, qui était actuellement conseiller spécial du chef de l'État, mais à l'époque il était dans la société civile à Solidarité Paysanne. Donc le Sud-Kivu est connu comme un bastion des fondeurs. Mais dans le cas actuel, ça fait un peu brouillon, parce que je ne comprends pas trop une pétition qui est déposée, ensuite qui est retirée, qui sont derrière ces pétitions. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un moment, on peut encore consulter l'histoire, depuis que Vital Kamerhe a été un peu mis à l'écart du leadership de cette province, il y a beaucoup d'effervescence politique. Et malheureusement, c'est dans la même famille politique du chef de l'État qu'on voit des gens qui sont en train de tirer les ficelles dans l'ombre pour ce genre de trucs.
Enfin, donc vous pensez que les pétitionnaires sont manipulés?
Absolument. Il suffit de voir leur origine. Le premier qui s'est retiré, il est notamment connu à Bukavu qu'il est membre d'un parti politique, membre de l'AMP, l'UPDI pour ne pas la citer. Les Maïmaï qui font partie de la coalition gouvernementale. L'autre, Guizo Mulengezi, qui a récupéré l'affaire après que l'autre l'ait retiré.
L'actuel porte-parole
qui est un étudiant professionnel, dit-on,
lui aussi, il est manipulé, il est derrière certains politiciens qui sont ici à Kinshasa.
Vous avez des éléments qui attestent qu'il est manipulé?
Bien sûr, il suffit de voir ses fréquentations. Quand des hommes politiques de Kinshasa, membres de l'AMP, descendent à Bukavu, il est tout le temps dans les sillages de ses membres. C'est tout simplement l'approche des échéances électorales, n'est-ce pas? On est en 2010, l'année prochaine c'est 2011, et l'échiquier politique du Sud Kivu étant en ébullition, chacun veut tirer la couverture de son côté, et malheureusement, on veut faire croire, c'est vrai, le Sud Kivu est fondeur, mais qu'on utilise des pantins, si je peux ainsi m'exprimer, pour se régler des comptes politiques, ce n'est pas très, très, très propre. Surtout que c'est dans la même famille politique.
Et juste à coup, c'est pas la première pétition, hein, c'est la deuxième, parce que en fait, la première pétition avait été initiée au mois de janvier. Et oui. Dans un espace de 3 mois, il y a 2 pétitions. Et cela ne reflète-t-il pas un certain malaise une manipulation, comme vient de le dire Benoît Cambéry?
Manipulation, je ne crois pas du tout, mais je crois plutôt à la thèse d'un malaise généralisé. C'est la traduction effectivement d'un malaise. Rappelez-vous, Guy, que l'actuel gouverneur a succédé à Célestin Tshibalonza, qui lui-même a été contraint à la démission à la suite d'un malaise au sein de cette classe politique. Et à ce moment-là, je n'en ai pas parlé de tireur de ficelle. Donc, je m'inscris en faux par rapport à cet argument qui voudrait faire croire à l'opinion qu'il y a des forces obscures par rapport à cette crise à répétition dans la province du Sud Kivu.
Donc vous pensez que les griefs qui sont formulés contre les gouverneurs Lulon et Mouderoi sont fondés?
Mais justement, c'est là qu'il faut creuser. Il faut creuser par rapport à ces griefs pour voir si ces griefs sont-ils fondés ou non. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, la province du Nord Kivu était frappée par un malaise du genre qui persiste d'ailleurs. Rappelez-vous ces groupes de députés provinciaux qui sont même allés en justice contre leur gouverneur par rapport à un problème de gestion. Et le même problème de gestion se pose dans pratiquement aujourd'hui dans toutes les provinces du pays. Donc je crois qu'il faut creuser par rapport à ça. Il faut d'abord vider les contenus de ces griefs. Et lorsqu'on a vidé les contenus de ces griefs et qu'on se rend compte que la corbeille est vide, c'est alors qu'on peut envisager d'autres pistes du genre tireur de ficelle, force obscure. N'oubliez pas, Guy Maté, que la province du Sud Kivu est la seule province à 100% AMP. Donc, au niveau de l'Assemblée provinciale comme du gouvernement, il n'y a pas d'élus venus d'autres forces politiques qui sont rivales à l'AMP, par exemple. C'est la seule province. Et lorsque des problèmes subsistent, il faut, je crois, creuser, aller plus loin. Moi, je voudrais puiser dans l'argumentaire passé sur Radio Papi hier. La réplique du gouverneur concerné, Louis Lance Tshirimwami Mouderoi, qui évoquait ici des frustrations. Peut-être qu'il est la personne la mieux placée pour nous détailler ce genre de frustrations plutôt que ce genre de crise à répétition. Voilà.
Mathieu Pokoudi, vous êtes de la province du Bas-Congo. C'est une des rares provinces qui n'ont pas été jusque-là, qui n'ont pas été secouées par ce genre de situations. Et ce qui se passe au Sud Kivu vous inspire quoi?
Oui, je m'en veux d'abord dire que c'est déjà une façon de dire qu'au niveau du Sud Kivu, il se pose vraiment un problème, comme l'a dit notre confrère de digital, c'est qu'il y a un problème de frustration. Effectivement, il ne faut pas qu'on dise que pour une population qui veut exercer son droit, qu'on dise qu'elle a été manipulée. Moi, je me pose la question de savoir la manipulation se trouve à quel niveau. Si c'est un droit également pour la population de pouvoir creuser, de connaître comment la chose publique est gérée, comment les affaires de l'État sont-elles conduites, ça c'est le droit le plus élémentaire. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui notre confrère de nous parle de la manipulation. Bon, car cela ne tient, chez nous au Bas-Congo, ça nous inspire comme étant une expérience pour dire que aujourd'hui ou demain nous devons réellement faire la part des choses entre un bien de l'État et un bien privé. Ça doit également nous inspirer pour dire que réellement, quand un bien de l'État est là, c'est pour toute la communauté. Et celui qui a dirigé la province, il doit travailler pour l'intérêt de tout le monde et non pas pour l'intérêt de quelques individus. Éviter de frustration, éviter de clivage, c'est ce qui permettra à ce que nous puissions aller de l'avant et penser à notre développement.
Benoît Caméré, parmi les griefs qui sont retenus contre le gouverneur Léonce Moudé-Roi-Thierry-Moimi, l'on parle notamment de la non-réalisation de toutes les promesses faites dans son programme, entre autres la construction des routes et des dessertes agricoles. On parle aussi de la recrudescence de l'insécurité. Et quelle est votre analyse à ce niveau des...
Tout à fait. Avant de répondre à ta question, je voudrais, là, on était dans la Manche, on y allait, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que dans presque toutes les provinces, depuis un moment, il y a des tourmentes dans les assemblées provinciales. Ce qui, effectivement, ça pose problème. Et là, je crois qu'on va peut-être y arriver quand on va parler du Parlement. Le fait que les gouverneurs soient élus au deuxième degré pose énormément de problèmes avec les assemblées provinciales. Et je crois que quand l'Assemblée va se réunir et qu'on aura une nouvelle loi électorale, il faudrait vraiment qu'on crève cet abcès et que, par exemple, que le gouverneur soit élu par la population de la province. Cela étant...
Mais il y a des désavantages de l'élection au deuxième degré. C'est surtout à quel niveau?
Les gouverneurs sont fragiles. Ils sont pris en otage par une poignée de gens qui, malheureusement, pour des intérêts égoïstes, parce qu'on l'a vu, à part le Bas-Congo et la province du Katanga, c'est pratiquement dans toutes les provinces. On l'a vu au Nord-Kivu, on l'a vu dans l'Équateur, on l'a vu, la province orientale est dans la même tourmente, on l'a vu au Kassai à plusieurs reprises, on le voit partout, tout simplement parce qu'un groupe de citoyens, fut-ils élus provinciaux, qui prennent en otage les gouvernements provinciaux pour des intérêts, malheureusement, souvent égoïstes, pour des intérêts d'argent.
Et maintenant, il faut analyser maintenant les griefs qui sont retenus contre le gouverneur. On parle de la non-réalisation de toutes ces promesses faites. On parle de la recrudescence de l'insécurité. Comment pouvez-vous analyser ces deux griefs d'abord?
Il y a effectivement malaise quelque part. Mais il ne faut pas non plus balayer d'un revers de la main le problème particulier du Sud Kivu avec la lutte pour le leadership. Depuis un moment, les élections, c'est bientôt. Vital Kamerhe a été plus ou moins, entre guillemets, neutralisé. Il y a des émergences, des gens qui voudraient prendre la tête du leadership de la province du Kivu. Et ça, il ne faut pas le minimiser. Quant au problème, ils existent. L'insécurité, on a tué des prêtres. Et quand on touche à l'Église catholique, qui au Kivu est quand même une grande institution, ça fait des malaises. Quand on fait des promesses qui ne sont pas réalisées, effectivement, ce sont des malaises, mais il ne faut pas que des pêcheurs en eau trouble en profitent pour se régler les comptes. C'est ça le problème. Moi, je me dis que partout, c'est légitime que des gens revendiquent, comme tout à l'heure, que j'ai entendu dans le commentaire qui a été fait par Radio Capi, curieusement, la pétition a été déposée alors que les signatures n'ont pas encore fini d'être récolté, et curieusement, après que le rapport parlementaire est en discussion à l'Assemblée provinciale. Mais des noms sont cités dans ce rapport parlementaire. Qu'on s'attaque à ces gens individuellement, si quelqu'un a détourné, c'est une affaire de celui qui a détourné. S'il s'avère que tel a détourné, maintenant que c'est en train d'être élucidé au niveau de l'Assemblée provinciale, ben qu'on y aille jusqu'au bout. S'il y a des conséquences à tirer, si tel ministre, si tel gouverneur, si tel vice-gouverneur, si tel membre d'une division provinciale a détourné, qu'il rembourse l'argent et qu'on le défende devant la justice. Et puis, me semble-t-il, les pétitionnaires, c'est tout à fait légitime qu'on signe une pétition. Pour que les gouverneurs soient élus, ils ne sont pas élus par des pétitions, ils sont élus par l'Assemblée provinciale. Et je pense que c'est par le rapport parlementaire, qu'on devait plus creuser et aller au besoin jusqu'à pousser le gouverneur à la porte de sortie. Et pour le Sud Kivu, c'est quand même assez malheureux, ça sera le deuxième gouverneur qu'on est en train de pousser à la sortie. Je ne sais pas si c'est pour l'intérêt de la province du Sud Kivu.
Il est sans cause, on reproche aussi au gouverneur Léonce Moudé-Roi le faible niveau de réalisation des recettes et l'absence des conseils des ministres pendant plus de 3 mois, la communication violente et indigne. Pensez-vous qu'avec ces griefs, les pétitionnaires ont tort d'avoir initié cette pétition?
Non, mais là, au moins, c'est un élément, ce sont des éléments importants que vous évoquez. évoquait qui peuvent être vérifiées. Et moi, je voudrais plutôt que le travail de vérification se fasse à ce niveau-là, seule une enquête parlementaire ou extra-parlementaire, nationale ou provinciale, qui peut établir des responsabilités à ce niveau-là. Mais je voudrais venir ici par rapport au contexte qui a prévalu avant l'installation de nouvelles institutions. N'oubliez pas que la population de la province du Sud-Kivu a adhéré à ce processus par rapport à une promesse qui leur avait été faite à l'époque. C'était le retour de la paix. N'oubliez pas que cette partie du pays continue à payer des lourds tributs et on a dit, voilà, vous adhérez à ce processus électoral parce que on vous apporte la paix et la reconstruction. Mais si dans leur vécu quotidien, il n'y a pas assez d'éléments perceptibles pour matérialiser ces promesses faites, il va de soi que la population soit un peu plus exigeante. N'oubliez pas que lorsque Tshibalonza est arrivé, il n'a pas eu une année. La population était pressée de voir des signes, voilà, justement, dans le sens de la pacification, dans le sens de la reconstruction, et lorsque cela n'arrivait pas, tout de suite, on a crié même à l'incompétence. À l'époque, ce n'était même pas encore une gestion, mais on a crié à l'incompétence. Et aujourd'hui, la même population revient à travers des griefs précis que vous venez d'évoquer ici, et à travers une compétition, quelle que soit la voie que la population peut emprunter. Mais le plus important ici, c'est le message que cette population veut laisser entendre. Donc moi, je voudrais plutôt que le gouverneur Thierry Mouni, que je respecte beaucoup, un travailleur que je connais personnellement, puisse s'élaver par rapport à ces griefs plutôt que de voir la forme, est-ce que y a les signatures sont là, est-ce que c'est les
noms. Comment pourrait-il c'est la vie?
Mais justement, il faudra que l'institution, le gouvernement central se saisisse de la question et engage une procédure pour vérifier ces faits, s'ils sont fondés ou non, pour voir parce que il n'y a pas assez de signes perceptible de la reconstruction de la province du Sud-Kivu. Peut-être la responsabilité n'incombe pas au gouverneur, mais peut-être au niveau national où beaucoup de moyens voilà, n'ont pas été déployés pour la relance de cette province, je rappelle, qui est très exigeante.
Oui, parce que la plupart des gouverneurs se plaignent du fait que la rétrocession qui est le reçoit de la part du gouvernement central n'est pas suffisante pour leur permettre de répondre aux besoins de leur province.
Mais c'est un problème général, Guy. C'est un problème général, c'est la chanson de tout. Mais est-ce que cela justifie... C'est vrai que les 40% des zéros, c'est combien ces zéros? Et donc, pour une province qui ne produit pas. Donc, le problème, c'est d'abord au niveau local. Il faut produire, il faut générer des recettes. Mais ici, qu'est-ce qu'on déplore un peu dans ce que vous avez dit ici? Il y a une faible mobilisation des recettes.
Donc, l'absence de conseil des ministres pendant plus de 3 mois.
Voilà.
Et la communication violente et indigne.
Voilà. Tout ça, c'est la population. Donc, je crois qu'il faut qu'on puisse nous éclairer là-dessus. Que l'on vérifie pour pouvoir sortir, mais c'est quand même malheureux pour une population comme celle du Sud Kivu, qu'on vive ce genre de crise cyclique et qui pourrait, parce que la jurisprudence oblige, on sera peut-être d'emprunter les schémas sur la longe, c'est qui n'est pas du tout bon.
Oui, parce que vous évoquez les conséquences. Mathieu Poukoubi, selon vous, quelles pourraient être les répercussions de cette situation sur le fonctionnement de la province du Sud Kivu?
Oui, d'abord, je voudrais faire remarquer que du moment où c'est le deuxième ministre du souverain qui est dans l'étage, cela risque même d'installer une certaine instabilité dans la province. Parce qu'en fait, c'est vrai, il se pose un problème de ressources financières, il se pose un problème de promesses maintenues. Mais moi, je pense que pour le gouverneur Chirimouane, il devait faire la politique de ses moyens. Bon, peut-être de façon, ce qui est vrai. Après 2011, je ne sais pas, selon le bilan de la province du Sud qui vous est dressé par rapport à la première législature. Donc c'est cette instabilité-là de hommes politiques au pouvoir qui sont qui aujourd'hui, il est vraiment difficile d'entrevoir un avenir assez radieux pour la province du Sud qui vous.
Oui, Benoît Cameré.
Je voulais juste ajouter une petite chose. Il semble même que le gouverneur, lui, Léonce Moudéroy, est absent de
de Bukavu depuis plus d'un mois qu'il est à Kinshasa. Alors, et que comment la province est... Bon, c'est vrai, il y a un vice-gouverneur, je suppose qu'il est en communication avec son gouvernement provincial, mais ça dénote d'un malaise quelque part qui n'est pas pour que les choses marchent très bien.
Et vous, quelle solution proposez-vous pour mettre un terme à cette situation?
Bah, écoutez, moi je pense que l'Assemblée provinciale est déjà en train de travailler là-dessus. Hein, le rapport sur la gestion financière est en train d'être examiné, eh bien, qu'on tire les conclusions de ça, et que, bon, les enfants, et particulièrement les hommes politiques du Sud Kivu, se retrouvent et qui se parlent en se regardant dans les yeux, parce que ce n'est pas très très bon pour leur province, et ce n'est pas très très bon pour leur avenir politique.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. La visite du chef de l'État turc Abdullah Gül en République démocratique du Congo. C'est le dimanche dernier que le président de la Turquie, Abdullah Gül, est arrivé à Kinshasa. Le chef de l'État turc était accompagné d'une délégation de plus de 200 hommes d'affaires de son pays. Les affaires étaient au centre de cette première visite en République démocratique du Congo. Et c'est lundi dernier que s'est ouvert le premier forum entre les opérateurs économiques de la RDC et ceux de la Turquie à l'hôtel Memling à Kinshasa. La Turquie n'est pas seulement venu chercher à investir, mais aussi renforcer son amitié avec les Congos, a dit le chef de la délégation des hommes d'affaires turcs. Les détails avec Daniel Tambinzoni.
La République démocratique du Congo présente plusieurs opportunités de commerce et d'investissement, et nous, hommes d'affaires turcs, croyons en son avenir. En 2009, le volume de nos investissements a dépassé les 10 millions de dollars américains, alors qu'il y a 4 ans, il était seulement à 2 millions, a dit le président de Tuscon, la corporation des hommes d'affaires turcs. Les visiteurs de Kinshasa ont manifesté beaucoup d'intérêt à investir dans le secteur de l'agroalimentaire, la construction, l'immobilier et bien d'autres domaines. Le président turc Abdullah Gül, présent à l'ouverture du forum, n'a pas manqué de mots.
La Turquie n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz naturel non plus. Mais peut-être que ça a été une bonne chose pour nous finalement, parce que nous avons appris du coup à créer une industrie, à produire et à beaucoup travailler. C'est avec ces expériences que nous avons développées et nous sommes prêts à partager ces expériences avec vous, les hommes d'affaires qui sont présents ici, sont venus avec des sentiments sincères. Ils veulent faire du commerce avec vous, mais ils veulent également investir.
Côté congolais, le président de la Fédération des entreprises du Congo, le ministre du Plan et le premier ministre Adolphe Mozito se sont tous livrés à un exercice de vrai manager pour rassurer leurs interlocuteurs. L'économie du Congo évolue aujourd'hui dans un environnement plus sain, ceci grâce à toutes les réformes courageuses entreprises à tous les niveaux. Venez, il y a de la place pour tout le monde, a dit Adolphe Mozito.
Pour rappel, c'est mardi dernier que le président Abdullah Gül a achevé sa visite en République démocratique du Congo. Giscard Koussema, c'est une première visite d'un chef d'État turc en République démocratique du Congo. Votre commentaire?
Écoutez, toute initiative d'ouverture de la RDC à l'extérieur ne peut que enchanter tout esprit rationnel. Et donc, à ce niveau-là, je salue cette politique du chef de l'État, cette initiative de pouvoir amener à Kinshasa Abdullah Gül de la Turquie. Cependant, j'ai une inquiétude personnelle, très personnelle, parce qu'il me revient de constater que cette visite a été sanctionnée par un mémorandum au contenu creux. Les contenus est creux, à mon avis, parce qu'il n'y a rien de concret, rien de pragmatique. C'est des intentions, en des termes diplomatiques, oui, nous allons renforcer, nous allons faire ceci.
Mais les diplomates ont des intentions.
Oui, des intentions toujours existé par voie diplomatique. Lorsque la Turquie est représentée ici, on sait que c'est la traduction de bonnes relations. Voilà. Mais j'aurais bien voulu qu'il y ait quelque chose de palpable, de concret.
Comme quoi, par exemple?
Malheureusement, de dire, par exemple, comme l'ont fait d'autres ici, qu'en 2010 ou 2012, la Turquie s'engage, par exemple, à réhabiliter telle infrastructure congolaise. Par exemple, et que des experts, c'est un exemple que je prends comme ça, s'engagent de, voilà, et des types d'experts qui fera le déplacement d'Ankara pour en discuter. Mais une réunion du patronat congolais et turc, qui se termine par pratiquement un chapelet de bonnes intentions. Je suis quelque peu déçu, moi personnellement. Je m'attendais à quelque chose de concret, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est une initiative à saluer. Alors maintenant, mon inquiétude est plus grave dans la mesure où la position même de la Turquie. La Turquie est candidate à l'Union européenne. Et l'Union européenne, vous savez, est très protectionniste, très rigoureuse, mais est-ce qu'elle va autoriser un autre État qui est d'ailleurs à cheval entre l'Europe et l'Asie? On connaît les antagonismes entre les deux blocs. Un pays à cheval qui vient s'ouvrir à l'Afrique. Est-ce que la Turquie ne va-t-elle pas subir des pressions de l'Union européenne? C'est une question que je me pose.
Mais nous entretenons, la RDC entretient des partenariats avec certains pays membres de l'Union européenne. Cela ne pose pas de problème.
Oui, mais avec beaucoup de conditions, vous le savez. L'Union européenne vous donne par la main gauche quelque chose et par la main droite vous dit, écoutez, il faut faire ceci ou cela. C'est ce genre de dictat que je crains.
Oui, Benoît Cambéry, pensez-vous, comme l'a dit Gérard Kousséma, que à l'issue de la visite du chef de l'État turc, il n'y a rien de concret?
Non, quand même, parce que déjà que l'on planifie des réunions qui auront lieu et à Ankara et à Kinshasa pour finaliser les contacts qui ont été pris ici, c'est déjà quelque chose. Que le chef de l'État turc s'amène avec 250 investisseurs potentiels, ce n'est pas rien. Que l'école turque, c'est vrai, on va me dire que c'est une petite chose, le complexe Shafak, qui est dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe, et qui sera inauguré pour le 30 juin. J'ai vu des gens ferrer d'ailleurs, et dire que ça entre dans le cadre du cinquantenaire. Et le complexe scolaire turco-congolais, c'est un complexe qui a été construit par des hommes d'affaires. Ce n'est pas le gouvernement turc, dans le cadre de l'amitié entre la République démocratique du Congo et la Turquie. Que la RDC diversifie ses relations bilatérales avec tout le monde, moi je crois que c'est une très bonne chose, et que si chacun peut amener le peu d'expérience qu'il a, et là le président turc l'a dit, c'est vrai, ils n'ont pas de pétrole, c'est vrai, ils n'ont pas de gaz naturel, ils n'ont pas de minerais, mais cela a fait qu'ils puissent entreprendre beaucoup de choses, et l'échange avec la RDC, on a vu au même ligne 250 entrepreneurs avec les entrepreneurs congolais qui ont pris langue et qui vont concrétiser quelque chose. Tout commence par le premier pas. Et ça, d'ailleurs, c'est à mettre en actif à l'ambassadeur turc qui était ici à Kinshasa, qui était très entreprenant et qui a fait que, finalement, cette visite aboutisse. C'est vrai, il est parti de Kinshasa, mais au moins, c'est un résultat palpable de son activisme et de ce qu'il a fait ici à Kinshasa. Attendons le résultat. C'est vrai, on est impatient de voir que ça tombe vite, mais bon, dans chaque long voyage, le premier pas compte.
Mathieu Poukoudi, vous êtes dans la province du Bas-Congo. Cette province est une province à vocation économique. Et quelles sont les potentialités que regorge votre province, la province du Bas-Congo, et qui sont susceptibles d'attirer les investisseurs turcs?
Oui, je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, dire que les pays qui se développent, ce sont des pays qui s'ouvrent à l'extérieur et qui n'entretiennent pas des relations avec des individus, mais avec des structures de coopération, c'est notamment avec la Turquie. Donc je suis tout à fait d'accord que le président turc soit venu avec 250 hommes d'affaires turcs. Ça, c'est déjà un point encourageant dans la mesure où ils vont découvrir les opportunités de développement pour la RDC qui est venue investir. En fait, pour la province du Bas-Congo, vous le savez, c'est une province à vocation agro-pastorale, elle est une province énergétique, elle est une province touristique, donc nous avons beaucoup d'atouts, si bien que les opérateurs économiques turcs ne seront pas dessus, ils trouveront de la place et ils trouveront le domaine dans lequel ils peuvent investir pour le bonheur de deux peuples.
Jusqu'à Koukema, si vous avez un mot à ajouter.
Oui, je partage les avis de Benoît et Mathieu tout à l'heure quant à... Je voulais essayer de relativiser mon propos. Je commençais par je salue l'initiative, la politique d'ouverture. Mais moi, c'est du pragmatisme, simplement. C'est très bien que de venir, le chef d'État a fait venir beaucoup. On a vu le passage du prince qui a laissé ses traces ici.
Quel prince?
le prince saoudien et l'immeuble prend forme. Voilà.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Parlement, ouverture lundi dernier de la session ordinaire du mois de mars au Sénat et à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement, sénateurs et autres diplomates et ambassadeurs accrédités à Kinshasa ont assisté à cette cérémonie. Pour l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a évoqué dans son discours d'orientation un certain nombre de sujets parmi lesquels la réforme constitutionnelle. Julien Nyamouni était sur place.
Au nombre de points abordés par Évariste Bossa, président de la Chambre basse du Parlement, la réflexion sur la révision constitutionnelle n'est plus un tabou. Sans préciser toutes les dispositions qui seront concernées par cette révision, le numéro 1 de l'Assemblée nationale estime que la révision constitutionnelle est un exercice normal dans une démocratie. Évariste Bossa.
La révision constitutionnelle, dans son principe, est un exercice normal et une institution qui, dans l'équilibre de nos institutions, constitue la respiration démocratique.
L'opposition parlementaire qui se félicite de ce discours estime pour sa part que la révision constitutionnelle ne peut toucher les dispositions liées à la durée du mandat du chef de l'État. Roger Lumba, la présidente du groupe parlementaire Ordre des démocrates républicains.
Ce qu'il préfère maintenant faire, c'est adapter la situation actuelle à la constitution. Mais nous disons tout simplement, nous allons veiller à ce qu'il n'y ait que des articles qui concernent la décentralisation. Que nous ne changerons pas le mandat du chef de l'État.
Pour le président de la Chambre basse, la Constitution n'est pas instituée éternellement. Elle régit le pouvoir de manière durable ici et non de manière irrévocable.
Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Écho des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît à Kinshasa et distribué en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes de la RDC. La question sur la révision constitutionnelle n'est plus un tabou, mais les débats c'est autour des dispositions qui sont susceptibles d'être révisées et celles qui ne le sont pas. Et votre analyse
Guy, c'est bien de dire que ce n'est plus un tabou parce qu'on a entendu un moment, hein, n'est-ce pas, quand, bon, je ne voudrais pas réveiller les chats qui dorment, une radio périphérique, RFI pour ne pas la citer, avait évoqué ce cas, il y a eu des officiels qui ont démenti avec la plus grande énergie. Mais heureusement que c'est à partir du Parlement qu'on nous confirmera, cette fois-là du Sénat, qu'il y avait une équipe qui travaillait en dehors pour cette éventualité.
Alors, par rapport à ces débats sur les dispositions qui sont révisables et celles qui ne les sont pas.
Mais c'est tout à fait normal. Bon, d'abord, il faut dire que notre Constitution, nous ne l'avons que depuis 2006, n'est-ce pas ? Et que on est en train de l'expérimenter. C'est vrai, par rapport à certains couacs. À titre d'exemple, on devait passer déjà à 25 provinces. On n'y est pas arrivé. C'est que quelque part, un aveu d'échec, et qu'il faudrait qu'on rectifie le tir. Et la Constitution est claire. On ne peut pas. Il y a des matières qui ne sont pas révisables. Et si aujourd'hui l'opposition monte sur les grands chevaux, n'est-ce pas, pour déjà sonner la sonnette d'alarme et dire attention, parce qu'il y a des matières qu'il ne faut pas toucher, c'est parce que on a évoqué à un moment, selon des rumeurs, qu'il y aurait des matières qu'on toucherait et qui ne sont pas révisables. C'est ainsi que, déjà, on commence à faire du bruit autour de ça pour qu'on n'y touche pas. Mais la révision constitutionnelle, même si, à mon goût, c'est venu trop tôt, n'est-ce pas, hein, il est prévu dans la Constitution des articles qui disent qu'on peut revoir la Constitution. Et c'est tout à fait normal. Mais maintenant, compte tenu des couacs qui sont arrivés dans l'expérimentation de ces 3 années, n'est-ce pas, il est de bon aloi de revoir certains articles de cette Constitution, les articles révisables, bien entendu.
J'espère que c'est moi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la télévision digitale Congo-Kinshasa, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Il y a quelques jours, nous avons reçu dans l'émission de l'Alliance congolais le député national Obey Nakou, il est vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, et il a affirmé que la disposition sur le mandat du chef de l'État ne sera pas révisée. Comment vous justifiez l'attitude de l'opposition qui pense que l'ANP voudrait réviser cette disposition?
Bon, écoutez, moi je ne voudrais pas restreindre le débat au niveau du peu l'article de l'un ou l'autre article, mais c'est le principe d'abord qu'il faut faire adopter au niveau de l'opinion. Le principe de la révision de la Constitution. On l'a dit, le chef de l'État l'a dit, d'autres officiels aussi, ce n'est pas une première, c'est le caractère dynamique justement. Une Constitution, elle n'est pas éternelle, ça c'est par principe, et donc elle a été rédigée, elle peut être révue. C'est d'abord par rapport au principe, c'est le principe qu'il faut d'abord adopter ici. Il me semble aujourd'hui que toute la classe congolaise, toute tendance confondue, s'accorde sur les principes de la révision. Mais quant au choix des articles, ça fera l'objet des discussions, parce que la Constitution de 2006 avait verrouillé
certaines dispositions,
par exemple celles liées au mandat du chef de l'État. Maintenant, une certaine opinion voudrait peut-être fixer maintenant sur l'application. Est-ce qu'une Constitution vient abroger une autre? En fait, lorsqu'on révise une Constitution, c'est pas l'ensemble du texte qui est révisé. Ça a toujours été quelques articles, ça a toujours été comme cela. Il y a un fond qui reste toujours à une constitution, on ne change pas de constitution de fond en comble. C'est par rapport aux besoins. Et les besoins, on l'a dit ici, ce sont des leçons qu'on a tirées de ces premiers quinquennats, avec par exemple cette affaire de décentralisation, avec la mise en place des nouvelles provinces. Voilà, je crois que c'est ça qui guide un peu, c'est ça qui suscite la révision, parce que on a vu pour une raison ou une autre, on n'a pas été en mesure d'appliquer cette disposition, ce qui fait qu'alors, au lieu de violer collectivement la Constitution, il vaut mieux revoir ça. Donc, c'est cette motivation-là qui est la plus importante, plutôt que du débat autour du mandat du chef de l'État.
Mais maintenant,
oui, le problème, c'est que si révision il y a, il faut que cela passe par les deux chambres du Parlement. C'est vendredi, l'Assemblée nationale vient de tenir sa toute première plénière
de cette
session, qui est l'avant-dernière session ordinaire de mars. Il y a plus de 80 matières qui ont été retenues, parmi lesquelles il y a des matières qui ont suscité des commissions paritaires mixtes entre les deux chambres. Il y a de nouvelles matières, il y a des arriérés, il y a du contrôle parlementaire là-dessus. Je n'ai pas vu, moi personnellement, j'ai avec moi ici le projet du calendrier, je n'ai pas vu la question de la révision de la Constitution par rapport à ce projet du calendrier des travaux qui a été adopté par la conférence des présidents qui s'est réunie hier, disons mercredi 17 mars 2010.
Mathieu Kokoudi, je rappelle que vous êtes éditeur de l'hebdomadaire L'Amboussure, c'est un journal qui paraît à Matadi au Bas-Congo. Parmi les arriérés législatives, il y a les projets de loi sur la CENI, et on sait qu'il y a une divergence de vue entre le 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, au sujet de ces projets de loi. Et que proposez-vous pour qu'on arrive à harmoniser ces divergences de vue par rapport à ces projets de loi sur la CENI?
Oui, je voudrais d'abord dire que le parlementaire n'agit pas pour leur propre compte. Ils doivent prioriser l'intérêt général. Vous savez, quand la population, l'opinion ne peut pas diriger, il faut trouver des représentants. Et le peuple qui dirige à travers ses représentants doit également être consulté de manière à ce que ce genre de texte passe sans qu'il y ait mois après une certaine contestation. Moi, je voudrais qu'à mon avis, le parlementaire, le sénateur ou les honorables députés qui vont plancher sur cette question, qui tiennent compte de l'intérêt général et non des intérêts égoïstes, parce que je sais, et notamment il y a la société civile qui est absente au sein de la nouvelle composition de la CENI, mais à ce niveau-là, nous devons tenir compte de toutes les forces vives, de manière à ce que l'implication de tous amène le développement.
Oui, dis-moi Cambéré, il ne reste que trois sessions avant la fin de cette première législature. Et s'il faut faire une sorte de bilan, s'il faut dresser un bilan, comment vous jugez les travails des députés et sénateurs?
Non, il y a des bilans qui se font déjà, des bilans d'autosatisfaction de certains par rapport au nombre de lois qui ont été votées, mais je crois qu'on devait relativiser tout ça. Et quand le président de l'Assemblée nationale a parlé du temps, et là je voudrais vraiment insister là-dessus, et tout à l'heure Giscard a parlé de l'avant-dernière session de mars, n'est-ce pas? On n'a plus le temps. C'est ce qui fait que, par exemple, il vient de nous donner le projet d'ordre du jour, il y a 50 matières, plus de 50 matières. C'est-à-dire qu'on court derrière le temps.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Matundu était à la technique, Samuel Kachak à la réalisation, sous la supervision de Martin Sebujangwe, devant ses micros, Guy Maté. Merci et excellent week-end sur Radio Okapi. Thank you.